Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est le 2 juin, mardi prochain, que doit débuter la deuxième phase du déconfinement en France et c'est demain que l'exécutif annoncera ses arbitrages. Les appels à relâcher davantage les restrictions se multiplient. Lycées, parcs et jardins, cafés et restaurants, cinéma, limitation des déplacements à 100 km autour du domicile, zones rouges et vertes, les dossiers sont nombreux et les demandes pour aller plus vite aussi, notamment pour des raisons économiques. Les chiffres de l'épidémie en France et à travers l'Europe sont plutôt encourageants, mais les autorités soulignent qu'elle n'est pas terminée. Peut-on accélérer le déconfinement ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en discuter, trois invités sont en direct avec nous par téléphone, car en attendant les nouvelles décisions, nous continuons à garder nos distances. Martin Blachier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de santé publique et directeur de PH Expertise, une société spécialisée dans la modélisation des maladies. Jocelyn Rode, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue social et spécialiste des maladies infectieuses émergentes, maître de conférences au département des sciences humaines et sociales de l'École des hautes études en santé publique de Rennes et chercheur à l'unité des virus émergents de Marseille. Et Agnès Lebrun, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Morlaix, c'est dans le département du Finistère, en Bretagne, porte-parole de l'Association des maires de France en charge des questions d'éducation. D'abord, les chiffres de l'épidémie qui sont publiés quotidiennement, ils sont plutôt encourageants. Martin Blachier, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous les interprétez comment ?
J'interprète du fait que la circulation virale aujourd'hui est très faible dans le pays. Elle est à peu près homogène sur la totalité du territoire. Elle est essentiellement très faible grâce au confinement qui a très bien marché. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la circulation virale. Et ensuite, les services hospitaliers commencent à se vider. Et ça, forcément, vous imaginez bien que c'est un petit délai avant que ça puisse s'observer une fois que la circulation virale a été considérablement réduite. Donc voilà à peu près la situation dans laquelle on est. Donc le dernier voyant qui était ces services hospitaliers qu'on devait voir se vider sont en train de passer au vert. Donc on est vraiment dans une phase de contrôle de l'épidémie aujourd'hui.
Agnès Lebrun, ça veut dire que les mesures actuellement en vigueur sont efficaces. Vous constatez qu'elles sont respectées, vous, dans votre ville à Morlaix ?
Alors nous avons la chance d'être en zone verte, ce qui fait qu'effectivement, nous nous sentons relativement éloignés du danger. Et paradoxalement, on pourrait d'ailleurs avoir une forme de relâchement de la population. Ce n'est pas exactement le cas. La population est plutôt prudente, mais comment dire, il y a des pics. C'est-à-dire que sur les plages, par exemple, on a vu qu'il y avait des débordements. Disons que les choses ne sont peut-être pas encore tout à fait stables post-confinement et on peut espérer que les gens retrouvent un comportement un peu plus responsable que ce que l'on a pu voir tout de suite après le déconfinement.
Oui, Jocelyn Rode, pour vous, les Français respectent globalement les mesures qui ont été prises ?
Oui, et pour moi, ça a été une véritable surprise, parce qu'en fait, quand on a annoncé le confinement, hein, il y a un peu plus de 2 mois maintenant, j'étais vraiment très très sceptique quant à la capacité en fait des Français de mettre en œuvre massivement et rapidement des mesures de protection qui n'avaient jamais été prises jusqu'en France, parce que ne serait-ce que parce qu'il y avait eu une perte de la culture de la contagion et du risque de la contagion en France. On le voit notamment avec les réticences vaccinales qui augmentaient de manière croissante d'année en année. Et en fait, les faits et les données sur lesquelles on travaillait, hein, puisqu'on avait des données hebdomadaires qui nous permettaient de suivre en fait le comportement des Français avant le confinement et après le confinement, eh bien, ça a été une grande surprise, c'est-à-dire que ce qu'on a observé, c'est qu'on a eu des changements massifs dans la population française de comportement, dans les comportements collectifs qui ont mis à peu près une semaine seulement à se mettre en place, qui ont commencé avant, d'ailleurs, l'annonce du confinement, à un très très haut niveau. On a été autour de 95% selon les indicateurs, entre 90 et 95% de respect très scrupuleux des consignes et des recommandations qui avaient été faites par les pouvoirs publics. Et ce qu'on a observé tout au long du confinement, c'est en fait une très grande stabilité de ces comportements qu'on commence juste un petit peu à voir reculer ces dernières semaines, mais vraiment très marginalement. On est toujours à un très haut niveau d'observance des mesures de précaution, et ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas compte tenu tous les stéréotypes culturels qu'on avait sur les Français qui sont perçus souvent comme inciviques ou peu disciplinés, eh bien, ça n'a pas été le cas.
Tester, tracer, isoler, c'est la doctrine du gouvernement. On va peut-être la détailler. Martin Blacher, les tests d'abord. Le Premier ministre avait annoncé un objectif de 700 000 tests par semaine avant qu'une carte entièrement verte, mais sans chiffres, il faut le noter, soit dévoilée. On en est où? Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Bah, on sait que dès qu'un patient est symptomatique en France, il est testé et que la totalité de ses contacts sont testés. Donc c'est ça la stratégie française aujourd'hui. C'est pas une stratégie qui est de faire du testing très très large, un peu, j'ai envie de dire, au hasard dans la population pour voir si les gens sont infectés. Donc c'est une stratégie où on teste les gens sur la base des symptômes et les contacts des gens qui ont des symptômes. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne. On sait que c'est une stratégie qui fonctionne, qui est utile. Après, on sait que c'est une stratégie qui ne peut pas contrôler une épidémie si les gens se relâchent complètement dans leur comportement. C'est-à-dire qu'elle est capable de contrôler une épidémie si jamais les comportements de la population limitent de manière très importante la transmission entre les personnes. Et je crois que la fausse idée qu'il ne faut pas avoir, c'est que cette stratégie testée, tracée, isolée est suffisante en elle-même et peut faire qu'on reprend une vie normale à partir du moment où ce système est extrêmement performant. Et toutes les études qui sortent montrent que cette stratégie est insuffisante. Elle ne peut pas permettre à elle seule de contrôler l'épidémie. Elle doit absolument être associée à des comportements qui évite au maximum le risque de transmission.
Agnès Lebrun, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être un petit peu de relâchement depuis une semaine ou deux. Est-ce que vous constatez, dans votre ville de Morlaix, que la stratégie, dès qu'il y a un soupçon avec les tests, avec le traçage des cas contacts, est-ce que vous constatez, vous, que ça marche au niveau local?
Oui, mais je pense que, évidemment, ça marche, mais rien ne peut marcher s'il n'y a pas une chaîne de responsabilité aboutie. C'est-à-dire que chacun doit assumer sa responsabilité et quelle que soit la stratégie adoptée, rien n'exonérera l'individu de sa propre responsabilité. Puisque on voit bien que, évidemment, le virus ne se balade pas tout seul, il ne se promène pas tout seul, et par conséquent, il suffit d'un individu, de 10 individus, de 5 individus qui ne respecteraient pas des mesures barrières, qui seraient anti-masques, par exemple, on en trouve, qui se ficheraient un peu éperdument de la vie collective, ou qui prétendraient que leur liberté individuelle prévaut sur tout le reste. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si chacun assure jusqu'au bout de la chaîne, d'abord avec discipline, c'est-à-dire que chacun ne doit pas s'occuper de tout, et je pense par exemple au nom des maires de France que les maires ont tout à fait conscience de cela et ils disent systématiquement l'expertise scientifique, nous ne l'avons pas. Nous, nous pouvons rendre compte de ce que nous savons, par exemple par rapport aux besoins de notre population la plus jeune dans les écoles ou par rapport à l'économie dans ce que nous observons chez nos restaurateurs, etc. Mais évidemment, nous sommes tous complémentaires les uns des autres. Mais en bout de chaîne, si les individus, les citoyens qui méritent là pleinement leur nom ne comprennent pas que la contrainte sur leur liberté individuelle, elle n'a qu'une seule destination, c'est de préserver la liberté collective, eh bien évidemment tout tombe.
Je me trompe, Agnès Lebrun, ou je vous sens sinon inquiète, du moins prudente?
Inquiète non, prudente oui, parce que je pense que il ne faudrait surtout pas que laisser entendre ou que les gens croient que finalement il y a un avant, il y a un pendant et l'après ressemble à l'avant. Alors qu'on sait très bien que dans les comportements, il va falloir faire évoluer les mœurs sociales. Il faudra aussi d'ailleurs faire évoluer les mœurs politiques puisqu'on ne pourra pas retrouver l'avant, quelle que soit l'envie de vivre des grandes réunions publiques avec des embrassades, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut maintenant mettre en œuvre, dire finalement, aujourd'hui, c'est le lendemain de hier et ça, c'est pour toute la vie. Et il n'y a pas de crainte à faire en sorte que les choses évoluent et à accepter que les choses évoluent, peut-être via aussi une éducation au risque un peu oubliée ces temps derniers, un rapport un rapport au danger, un peu oublié ces temps derniers, puisque le principe de précaution avait couvert en quelque sorte tout cela. Donc c'est pas de la crainte, c'est pas de l'inquiétude, mais c'est juste de dire que chacun maintenant, on va devoir aussi être partie prenante dans cette évolution sociétale qui est nécessaire.
Jocelyn Rhode, est-ce que le risque, comme vient de l'évoquer Agnès Lebrun, ce n'est pas que les Français se disent bon, c'est fini et qu'il y a une forme de relâchement ?
Si vous voulez, le discours sur le relâchement, moi je l'entends depuis 6 semaines, c'est-à-dire ponctuellement, il est mis en avant dans les discours publics. C'est pas du tout ce qu'on observe ni dans les données sur les comportements des Français qui peuvent être collectés notamment par ce qu'on appelle les mégadonnées hein, ou des big data, c'est-à-dire les comportements de mobilité des Français. Donc chacun d'entre nous, pratiquement en France, a un téléphone portable et vous avez des opérateurs comme Google, par exemple, qui est capable du coup de générer des statistiques très précises sur ce que font les Français quasiment jour par jour et là où ils sont. On a aussi les comptes rendus du ministère de l'Intérieur par rapport aux contrôles qui sont effectués sur les routes, notamment le taux d'infraction qui est extrêmement bas, hein, puisqu'il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne, on avait quelque chose comme 0,5% des contrôles qui s'étaient terminés par un procès-verbal compte tenu d'un état d'infraction, donc c'est extrêmement peu. Et puis, on a différents dispositifs d'enquête qui suivent des comportements déclarés, cette fois-ci des Français, sur différents aspects, le respect des mesures barrières, donc l'hygiène, le respect des mesures de distanciation sociale. Et nous, ce qu'on voit, là, pour l'instant, hein, je veux pas dire que ça va continuer encore pendant plusieurs mois, mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est un maintien à un très haut niveau des mesures barrières et des mesures de distanciation sociale. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des aberrations locales, c'est-à-dire que localement, on peut observer peut-être des regroupements de gens, et du coup, ça, c'est pas autorisé, mais ça peut être visible, notamment dans certains espaces publics, je pense en particulier à Paris, où il y a quand même une grande densité de population et où il est facile, par inadvertance, de se retrouver dans un regroupement malgré soi, si vous voulez, surtout que les parcs sont fermés actuellement. Mais ça, c'est vraiment des exceptions, parce que toutes les données sont convergentes et montrent qu'on est plutôt sur un maintien à un très haut niveau de ces règles prudentielles. Et on voit dans nos enquêtes qu'à peu près, malgré la reprise du travail, c'est certain, à peu près 75% des gens qui disent continuer, en fait, à maintenir un haut niveau de précaution par rapport à cette possible transmission du Covid.
Martin Blachier, Jocelyn Rhode parlait à l'instant de regroupement. On entend parler de nouveaux clusters, c'est-à-dire de cas positifs de Covid-19 dans des lieux concentrés. Est-ce que c'est inquiétant ou le simple fait qu'on les repère, c'est déjà une bonne nouvelle ?
Alors non, c'est pas du tout inquiétant. Hein. C'est ce qu'on appelle un biais d'observation. C'est-à-dire que plus vous regardez, plus vous voyez. Et c'est exactement ça qui explique le fait qu'on voit les clusters. C'est absolument pas un rebond épidémique. C'est simplement que comme on fait plus de tests, on trouve plus de positifs. Je voudrais rebondir sur ce qui venait d'être dit, et moi je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite. Je pense que il faut au contraire aujourd'hui être capable de faire la part des choses. C'est-à-dire que oui, il y a des situations qui sont à risque, mais il y a aussi plein de situations qui ne sont pas à risque, pour lesquelles aujourd'hui il y a des précautions qui, je pense, sont excessives. Par exemple, ne pas ouvrir les parcs et les jardins, honnêtement, sur un plan épidémiologique et virologique, il n'y a pas trop de justificatifs. Ce qu'on a vu dans la littérature récemment, c'est que toutes les études montrent que les grands moments de contamination, c'est quand les gens sont confinés dans un espace intérieur pendant une durée importante, qu'ils sont nombreux qu'ils se parlent les uns les autres sans masque. Voilà. Là, ça, on sait que c'est des bombes épidémiques et que ça peut entraîner la contamination de nombreuses personnes. On sait par exemple que dans un restaurant, si ne serait-ce que vous ayez un petit peu de vent qui traverse la salle, vous ayez le flux d'une climatisation ou d'un ventilateur, une personne qui tousse peut contaminer beaucoup de personnes. Ça, on sait. En revanche, on sait aussi que si vous avez des gens qui sont sur une plage, que si vous avez des gens qui sont dans un parc, il y a extrêmement, le risque de contamination il est extrêmement faible. On sait aussi chez les enfants que que les enfants sont peu à risque et qu'ils transmettent assez peu la maladie. Donc voilà, je pense que c'est important à la fois de rappeler les mesures de précaution, mais aussi de rappeler qu'il y a plein de circonstances sur lesquelles le risque est très limité et où on va pouvoir reprendre une vie normale. Donc aujourd'hui, au début, on a quand même fait un peu un principe de précaution. On a dit qu'il faut tout arrêter. De toute façon, c'était nécessaire parce qu'on était beaucoup trop tard dans le pic. Aujourd'hui, on a complètement redescendu dans la circulation virale. Et certes, il y a des choses qu'il ne faudra pas faire et qu'il ne faudra pas les faire pendant longtemps. Je prends toujours l'exemple de la boîte de nuit. Parce que l'idée de refaire des soirées dans des boîtes de nuit, à danser toute la nuit ensemble, ça c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir faire pendant longtemps. À l'inverse, il y a plein de choses qu'on peut éventuellement faire. Je pense que les bars et les restaurants, en particulier quand il y a des terrasses, et d'ailleurs ça c'est des choses d'aménagement qui pourraient être faites, d'autoriser les restaurateurs à utiliser les trottoirs et les places pour pouvoir réouvrir, et bien ça, le risque, il est extrêmement faible. On sait aussi que marcher dans la rue avec un petit peu d'espace, il n'y a pas de risque. Moi, je pense qu'il y a très peu de contamination potentielle dans les parcs, parce que quand c'est en extérieur, on sait qu'il y a peu de confinement, que c'est très aéré et qu'il y a assez peu de risques. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les vrais comportements à risque et les situations dangereuses et les situations sur lesquelles il y a peu de risques. Et je pense qu'effectivement, le défi, ça va plutôt être de rassurer les gens sur certaines circonstances plutôt que de dire qu'il faut une chape de plomb totale. Et elle n'est pas nécessaire, à mon sens.
Agnès Lebrun, il y a des points en tant que maire, vous aimeriez peut-être être un petit peu plus relax, si j'ose dire. Lesquels, éventuellement?
Plus relax, c'est-à-dire plus ouais, enfin, tranquille.
Les restrictions un peu moins fortes, disons.
Oui, bien sûr. Alors, nous, effectivement, ce que l'on demande, et encore une fois, on a une confiance non pas aveugle, précisément, parce que la base de la confiance, c'est pas l'aveuglement, mais nous avons confiance dans l'expertise scientifique. Et par contre, ce que nous demandons, c'est de la cohérence dans les décisions qui sont prises. Parce que lorsqu'on ne reçoit que 20% des élèves dans les écoles, et que par ailleurs on est susceptible de rouvrir des restaurants, eh bien nous nous interrogeons, c'est-à-dire que nous nous demandons pourquoi ne pouvons-nous pas accueillir davantage d'enfants. Lorsque les plages, ici nous sommes en Bretagne effectivement, et nous nous sommes battus avec une belle unanimité pour que nous puissions rouvrir nos plages parce que nous considérions que l'espace était tel, puisque c'est un peu la particularité des plages bretonnes, c'est d'offrir beaucoup d'espace. Donc nous considérions que l'espace était tel qu'il permettait très facilement d'observer des mesures barrières en particulier. Donc simplement, ce que nous demandons, c'est de la cohérence. Et ce que nous voudrions aussi, c'est qu'il y ait une synthèse, pardon si le mot peut faire frémir, mais une synthèse entre les contraintes, c'est-à-dire que les contraintes sanitaires, oui, mais les contraintes sociales aussi, c'est-à-dire qu'un enfant, je ne dis pas qu'il faut faire prendre à un enfant le risque d'être contaminé, évidemment, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis qu'un enfant sans école pendant 6 mois, il peut porter un choc ou un traumatisme social ou psychologique qu'il faudra aussi prendre en compte et qu'il faudra prendre en charge. Et par conséquent, il faut vraiment mesurer quel est le risque sanitaire pour ne pas être excessif dans ce que l'on fait, de sorte à pouvoir desserrer les contraintes et retrouver de la vie sociale, en particulier pour les enfants, mais aussi évidemment de la vie économique.
Jocelyn Rhodes, par quoi on peut commencer? Il y a plusieurs choses qui ont été évoquées depuis quelques minutes. La réouverture des lycées, l'élargissement de l'accueil à l'école, c'est dur psychologiquement pour les élèves de ne pas avoir vu leurs copains ou leurs profs ou leur classe, tout simplement, pendant 2 mois et demi, et peut-être même pendant 5 mois.
Oui, parce que en fait, on fait parfois comme si les mesures d'intervention qu'on peut qualifier de sociales ou comportementales n'ont pas d'effet secondaire, mais en fait, c'est un peu comme les médicaments. Hein. Il y a des effets iatrogènes qui sont documentés, notamment sur l'isolement. L'isolement social pose un nombre de problèmes en termes de santé mentale. Hein. On a des revues de littérature, hein, des travaux scientifiques qui résument l'état de la connaissance très très clair là-dessus et qui montrent que les situations d'isolement social sont des situations qui favorisent les pathologies mentales. Donc, ça peut être la dépression, l'insomnie et d'autres problèmes. Donc nous, ce qu'on a vu dans nos enquêtes qui étaient consacrées aux questions de santé mentale, moi je ne suis pas un spécialiste de la santé mentale, mais du coup j'ai suivi quand même les indicateurs qui étaient construits et mesurés par mes collègues spécialistes de ces questions. C'était une unification des états anxieux extrêmes, une unification des problématiques d'insomnie dans la population française. Et donc, le confinement a aussi eu des effets secondaires et des effets pervers sur la santé, qui ne sont pas forcément que la santé mentale d'ailleurs, hein, qui peut être aussi la santé physique à travers le retard de diagnostic de pathologies chroniques, hein, je pense aux maladies cardiovasculaires ou au cancer. Donc, on a des effets pervers qui peuvent être extrêmement importants de cette promotion d'isolation, d'isolement social, si vous voulez, et qui n'ont pas été tout de suite pris en compte, à mon avis, dans l'équation, hein, lorsqu'on a décidé le confinement, mais qui sont apparus relativement vite, en fait, hein, dans les observations. Donc, à mon avis, c'est toujours un arbitrage, hein, qui est délicat. Moi, j'aurais pas voulu être à la place du gouvernement, à faire entre un risque lié à une maladie infectieuse émergente et très contagieuse, et des risques à la fois psychosociaux et liés aux maladies chroniques. Pour moi, il est clair qu'on aura forcément une seconde vague, qui sera pas forcément liée d'ailleurs au Covid-19, mais qui sera liée au retard du diagnostic de toutes ces maladies, et que ces questions, il va falloir les traiter à un moment donné, et qu'on va forcément les voir réapparaître à un moment donné, parce que les malades ne disparaissent pas. Hein. On retarde surtout leur prise en charge.
Martin Blachier, je reviens sur cette affaire d'ouverture ou d'élargissement de l'ouverture des écoles, des lycées. Est-ce qu'on peut, à ce stade, se permettre d'envoyer un peu plus d'enfants à l'école et de rouvrir les lycées ?
Non seulement on peut, mais c'est essentiel, et je pense qu'il faut, là pour le coup, on peut attendre le gouvernement là-dessus. Je pense que c'est pas du tout normal qu'il y ait que 20% des élèves qui retournent à l'école. C'est absolument pas justifié sur le plan sanitaire. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit les gens en charge des décisions sanitaires qui aient recommandé ça. On peut tout à fait envoyer beaucoup plus d'enfants à l'école. C'est le cas dans tous les autres pays. Donc je crois qu'il y a une résistance à la fois des parents, du corps enseignant, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment une situation qu'il faut traiter de manière très sérieuse. Je suis tout à fait d'accord que 5 mois sans école pour les enfants, ça va avoir des répercussions qui sont importantes. Et encore une fois, les écoles, même si au début on a fermé d'abord les écoles, donc c'est peut-être ça qui a impacté les gens, parce qu'il y a eu l'idée que c'était les enfants qui étaient vecteurs de la plupart des contaminations. On sait que c'est faux, on sait que les enfants transmettent plutôt moins la maladie, même si c'est débattu, mais au maximum autant que les adultes, et très probablement moins. On sait qu'ils sont pas atteints par le Covid-19 pour des questions de maturité, de membrane cellulaire avec un certain nombre de récepteurs. Il y a plusieurs théories, mais en partie celle-là, et des immunités croisées éventuellement. Donc vraiment, je crois que c'est l'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est de trouver un moyen d'envoyer plus d'enfants à l'école. J'entendais le maire qui me disait que l'école avait envoyé un mail, là, en disant que sur le mois de juin, il pourrait prendre les enfants une journée dans le mois. Honnêtement, c'est scandaleux, et je pense que là, il faut vraiment réagir.
Oui, Agnès Lebrun, c'est un peu votre spécialité, les questions d'éducation.
En l'occurrence, ce n'est pas le maire qui envoie un mail pour dire, s'il le fait, il le fait sous l'autorité académique, bien évidemment.
Directeur.
Bien sûr. C'est-à-dire que la collectivité, elle est en charge de la gestion des locaux et du périscolaire, c'est-à-dire de la garderie et de la pause méridienne et la demi-pension. Donc ça signifie que, effectivement, moi je pense et je trouve qu'il faut tout faire. Alors, je ne porte pas un jugement de valeur sur qui fait quoi et comment il le fait, mais je pense qu'il faut vraiment unir toutes les forces en présence pour que plus d'enfants puissent être accueillis, pas seulement pour des motivations économiques, pour des motivations tout à fait fondamentales dans notre démocratie, parce que dans notre démocratie, dans notre République, l'école est un lieu d'émancipation. C'est le lieu d'émancipation par excellence pour les enfants, et la place d'un enfant, c'est d'être à l'école. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne peut recevoir qu'un certain nombre d'enfants parce que les mesures sanitaires sont extrêmement contraignantes et encore une fois, on s'y soumet. Mais en revanche, dans l'état actuel des choses, avec l'effectif dont nous disposons, nous ne pouvons pas faire par exemple 4 services de demi-pension. Nous ne pouvons pas faire de garderie avec, si on ne veut pas brasser les groupes, comme c'est la mesure, la contrainte sanitaire, on ne peut pas brasser les groupes avec un agent territorial pour 8 élèves. C'est quelque chose d'impossible. Donc ça signifie que ou bien les mesures barrières ou les garanties sanitaires sont légèrement desserrées sur la base d'une expertise scientifique qui va dans ce sens, ou bien effectivement on ne peut pas accueillir davantage d'enfants, et c'est épouvantable. Pardon, je le dis de façon personnelle, mais je trouve que rien n'est pire pour un enfant que de se voir refuser l'école.
Et un autre sujet qui pose pas mal de questions, c'est la fameuse carte des zones rouges et vertes. Est-ce qu'elle est encore pertinente ? Elle n'a pas été actualisée depuis le 11 mai. Des régions entières demandent à passer en vert. Qu'est-ce que vous en pensez, Jocelyn Rhodes ? C'est un petit peu stigmatisant d'être dans une région en rouge ?
Bah, Moi, je suis un peu sceptique par rapport à ces mesures géographiques qui ont été prises, parce qu'encore une fois, ça nous fait perdre l'essentiel de vue. Et c'est quoi l'essentiel? C'est qu'il faut éviter les contacts rapprochés. Donc si vous faites 100 km, mais que vous allez voir votre famille à un endroit, une autre famille à un autre, et que vous prenez tout le monde dans vos bras, etc., le confinement dans les 100 km, il n'a aucun sens. Par contre, si vous faites 400 km pour aller dans votre maison de campagne, où vous allez croiser presque personne parce que c'est à la campagne, que c'est en milieu rural, eh bien, vous augmentez pas du tout votre risque, au contraire, vous diminuez. Donc, je pense que là, on est dans une forme de, enfin, que je qualifie moi de précautionnisme, hein, c'est-à-dire qu'on met en place des précautions qui vont au-delà probablement de ce que nécessite, dans l'état de la connaissance actuelle, la prévention de l'infection. Et ça aboutit à des mesures qui sont mal comprises, qui font l'objet de débats, de controverses, et du coup, qui nous font perdre de vue l'essentiel. Je pense qu'un regard épidémiologique sera vraiment intéressant sur ces questions.
Martin Blachier, sur cette question des zones rouges et vertes et des 100 km, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Je partage exactement ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai toujours pensé que c'était stupide, ces zones rouges et ces zones vertes. Je pensais que ça pouvait avoir un effet pervers. Les zones rouges, elles ont toujours été rouges pour une question d'embouteillage des services hospitaliers, hein, parce que les services ont mis un petit peu de temps à se vider, donc ça, on peut tout à fait le comprendre. Mais je pense que ça a été un mauvais message qui a été envoyé. Et d'ailleurs, les gens ont tout de suite compris quand ils ont vu que la plupart des premiers clusters ont été identifiés dans des zones vertes. Je rappelle qu'aujourd'hui, le risque est plus élevé de réascension épidémique dans les zones vertes que dans les zones rouges. Puisque les seules zones qui ont accumulé un petit peu d'immunité collective, qui est sans doute plus efficace que ce qu'on pense pour des raisons à la fois mathématiques et biologiques, d'immunité cytotoxique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc finalement, aujourd'hui, les zones qui sont les plus sécures en France sont l'Est de la France et une partie de l'Île-de-France. Mmh. C'est sûr que ces zones rouges et ces zones vertes, c'était pas une très bonne idée et je pense pas que ça va durer très longtemps. Et sur les 100 km, c'est exactement l'exemple qui vient d'être dit. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est les comportements et c'est pas la distance. Donc que vous organisiez une grande fête, vous allez tous vous prendre dans les bars en bas de votre immeuble ou à 500 km de chez vous, c'est exactement la même chose. En fait, ça part de l'idée qu'il pourrait y avoir des départements qui seraient comme une île, qui seraient totalement préservés de la circulation virale. Or ça, c'est faux. Il y a des villes où effectivement il y a plus de virus, on le sait. Hein. Moi, j'ai parlé avec des gens des Antilles. Effectivement, il y a des villes qui sont dans cette situation-là. Et là, la question se pose, savoir si on peut remettre des trafics aériens, voire. Mais en France, ça n'a aucun sens. Et je vais même aller plus loin, ça n'a ni de sens au niveau des départements français, ni de sens au niveau des pays européens. Mmh. Donc cette histoire de frontières, dans n'importe quelle dimension que ce soit, c'est une histoire qui ne fait pas sens, et je pense pas que ça va durer très longtemps.
Agnès Lebrun, Morlaix, c'est dans le Finistère, c'est en Bretagne, c'est une des régions les moins touchées. Vous auriez des craintes, vous, à voir arriver des gens de zones dites rouges?
D'abord, nous ne vivons pas dans la crainte et on accueille absolument tout le monde avec une grande hospitalité, je crois.
Au contraire, ils sont les bienvenus, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Voilà, exactement, ils sont les bienvenus, comme ils l'ont toujours été. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est le comportement. C'est le comportement. Et la limite administrative, qu'elle soit kilométrée ou qu'elle soit plus proche du jeu télévisé avec des zones de couleur, vert je passe, rouge je m'arrête, ça ne me semble pas un bon message d'une part, et puis ensuite ça me semble assez infantilisant pour tout dire. Il vaut mieux faire passer des messages sur la nécessaire responsabilisation individuelle qui, comme je le disais tout à l'heure, me semble être finalement tenir les clés de notre avenir et de la façon dont les choses vont se passer un peu plus tard.
Eh bien, merci beaucoup Agnès Lebrun,
merci à vous.
Merci Jocelyn Rhode et merci Martin Blachier d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Javier González Gavilán. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio à la rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. En attendant, prenez soin de vous et des autres, appliquez les gestes barrières et bonjour chez vous.